céder ma moitié. Cette maison m'avait paru toujours prétentieuse et bourgeoise. Pour parler franc, elle me gênait un peu et j'étais content de m'en débarrasser. En ce qui concernait les enfants, le plan était le suivant. Mon ex-femme, c'était déjà en ces termes que je pensais à elle, et moi allions pratiquer la garde alternée, remède à la Salomon contre la déchirure du tissu familial. À cette époque, vers la fin des années 70, cette mesure passait pour un moyen progressiste, bien qu'encore très peu testé, de répartir les responsabilités parentales lors d'un divorce. Les filles habiteraient 3 jours et demi par semaine avec moi et Vicky, et 3 jours et demi avec leur mère. Une semaine, elles passeraient 3 nuits chez moi, puis la semaine suivante, 4 nuits, de sorte qu'au bout de 14 nuits, elles auraient dormi 7 fois chez chacun des deux parents. La moitié de leurs vêtements et de leurs affaires personnelles resterait dans ma maison, où j'avais découpé le grenier pour aménager 2 minuscules chambres basses et l'autre moitié dans celle de leur mère, où chaque enfant avait une vaste chambre pourvue de hautes fenêtres et d'un dressing. Les filles pouvaient se rendre aisément, en toute sécurité et sans se presser, d'une maison à l'autre. Les jours de transition, le car scolaire pouvait les prendre le matin à l'une des maisons et l'après-midi les faire descendre à l'autre. Nous nous étions mis d'accord pour traiter les jours de fête et les vacances en improvisant selon le cas. Autrement dit, nous avions reporté le problème. Il ne restait que le chat, un gros Maine Coon du nom de Scooter, et la chienne de la famille, bâtarde blanche, en partie caniche, que nous avions sauvée de la fourrière 12 ans auparavant, lors de mes études de 3e cycle. C'était une chienne stérilisée, appelée Sarge, sans raison connue, déjà adulte et d'âge indéterminé quand nous l'avions recueillie. Elle était à présent très vieille. Elle souffrait d'arthrite, elle était à moitié aveugle et partiellement sourde. Et elle était très dévouée à tous les membres de la famille. Nous formions sa meute. Louise et moi avions estimé tous deux que Scooter et Sarge, contrairement à nos filles, ne pouvaient pas s'adapter à la garde alternée et devraient donc vivre à temps complet, soit chez l'un, soit chez l'autre. J'ai immédiatement proposé de garder Sarge, que nous considérions comme n'appartenant à aucun des deux parents, mais plutôt aux 3 filles, qui étaient très protectrices à son égard, comme s'il s'agissait d'une sœur handicapée mentale ou physique. Malgré sa fragilité, c'était un chien de compagnie parfait, d'une placidité adorable. Sarge était complètement dépendante et manifestait une grande reconnaissance pour toute forme de gentillesse humaine. Scooter, en revanche, était un solitaire qui passait souvent toute la nuit à rôder dans le voisinage en quête d'aventures sexuelles. Négligent, nous ne l'avions fait châtrer que lorsqu'il avait presque 3 ans, et de toute évidence, il se croyait encore obligé de livrer des combats mortels contre d'autres matous pour s'arroger les faveurs sexuelles de femelles alors même qu'il n'était plus en état d'en profiter. Louise, les filles, Scooter lui-même, tout le monde le considérait depuis longtemps comme mon chat, parce que, du fait que je me levais tôt, c'était moi qui lui donnais à manger quand il apparaissait dès l'aube à la porte de derrière, avec l'air d'un boxeur qui aurait besoin d'un bon soigneur. Et bien que ni lui ni moi ne l'ayons ouvertement affirmé, nous étions les seuls mâles de la famille. Il a abouti dans ma petite maison au bas de l'allée, non pas parce que je le voulais, mais plus ou moins par défaut. Conformément au principe qui répartissait également les responsabilités de garde entre l'ex-mari et l'ex-épouse, comme l'ex-mari avait été choisi par le chat, il a été décidé que la chienne resterait chez l'ex-épouse. Celle-ci a insisté pour la voir. Il n'y a eu ni discussion, ni négociation. J'ai commencé par renacler, puis j'ai lâché. Le fait de garder Sarge chez elle représentait beaucoup pour la fierté de Louise. C'était le petit plus en sa faveur dans un partage par ailleurs équitable de biens immobiliers, d'objets personnels et de responsabilités familiales. Elle remportait là une légère victoire sur moi dans une lutte dont nous tenions, elle autant que moi, à éviter qu'elle ne dégénère en quelque chose de potentiellement beaucoup plus destructeur. Lui céder ne m'a donc pas gêné. Il faut savoir choisir ses combats, me suis-je rappelé. En outre, revendiquer Sarge était une façon assez peu subtile, bien que sans doute inconsciente, de dire que nos filles étaient davantage à elle qu'à moi. Je n'ai pas non plus eu de mal à lui céder sur ce point, du moment que je savais que c'était une illusion. J'en ai retiré l'impression d'être plus magnanime et plus sage que je ne l'étais réellement. À cette époque, il y avait entre Louise et moi de nombreuses différences sur ce qui relevait de la réalité et de l'illusion, du vrai et du faux, et nous confondions souvent les causes de la dégradation de notre vie de couple avec les symptômes d'une vie de couple déjà brisée. Mais je n'ai pas envie de m'étendre là-dessus, parce que cette histoire ne porte pas sur ces différences et sur ces confusions qui, tant d'années après, sont devenues insignifiantes et sans pertinence. En outre, Louise et moi sommes tous les deux remariés avec bonheur depuis des décennies. Nos enfants sont pratiquement d'âge mûr et ont eux-mêmes des enfants. Une de nos filles a divorcé deux fois, comme son père. Au départ, notre arrangement a fonctionné sans accroc, comme Louise et moi l'avions espéré. Fort heureusement, les filles, une fois passé le choc initial de la séparation, ont paru adopter le mouvement de métronome réglant leurs allées et venues entre leur ancienne maison familiale, désormais dirigée uniquement par leur mère, qui en était aussi la seule propriétaire, et la nouvelle maison, pas très bien finie, que tenait leur père. Grâce à une balançoire et un toboggan acheté chez Sears, j'ai transformé le jardin en terrain de jeu de maison de banlieue. Je me souviens que nous avons eu un automne doux avec un long été indien, et après avoir installé une tente des surplus de l'armée au milieu des érables près du ruisseau, j'ai laissé les filles faire griller des hot dogs et des marshmallows, leur donnant ainsi la permission d'y dormir dans des sacs de couchage quand les nuits n'étaient pas trop fraîches et qu'il n'y avait pas école le lendemain. Le mois de juin précédent, sachant que j'allais devoir m'occuper seul des filles et de la maison, j'avais organisé mon emploi du temps pour que mes cours et mes réunions du trimestre d'automne aient lieu en début de journée, ce qui me permettait d'être rentré chez moi quand les filles descendaient du car scolaire. Comme Vicky habitait au-dessus du garage, même si elle n'y dormait plus que de temps à autre parce qu'elle avait maintenant un petit ami, lui aussi étudiant, qui disposait de son propre appartement en ville, ma maison, cet automne-là, ressemblait, après les heures de classe, à un camp de vacances de filles. La seule complication que nous n'avions pas prévue a surgi du fait que Sarge, malgré son arthrite, trottait du mieux qu'elle pouvait derrière les filles chaque fois qu'elles partaient de la maison de leur mère pour venir chez moi. En soi, ça ne posait pas de problème. Sauf que lorsque les filles rentraient chez leur mère à la fin des 3 ou 4 nuits programmées chez moi, Sarge refusait de les suivre. Elle restait avec moi et scooter. Ses préférences étaient claires, bien que ses raisons ne le soient pas. Elle résistait, même si je voulais lui passer une laisse, se laissant alors tomber et devenant toute molle, comme un manifestant contre la guerre, arrêté pour violation de propriété, impossible de la faire tenir debout et de l'obliger à avancer. Les filles n'étaient pas parties depuis une heure, que déjà Louise téléphonait et insistait pour que je mette la chienne dans ma voiture et la reconduise à la maison, selon ses mots. Sarge vit avec moi, disait-elle, avec moi et les filles. La garde de Sarge représentait une victoire sur Louise que je n'avais nullement cherchée. Je n'avais jamais considéré Sarge comme ma chienne, mais bien comme le chien de la famille, ce qui pour moi signifiait qu'elle appartenait aux enfants. Je m'efforçais d'expliquer qu'apparemment c'était Sarge elle-même qui avait décidé de demeurer avec moi, et je jurais à Louise que je n'avais rien fait pour la pousser à rester ni pour l'empêcher en aucune façon de suivre les filles le long du sentier quand elles partaient. Bien au contraire. Mais Louise ne voulait rien savoir. « Ramène cette foutue chienne tout de suite !» Et elle raccrochait. Sa voix et son accent caractéristique de la région du Tidewater en Virginie résonnent encore à mes oreilles après toutes ces années. À cette époque, je roulais dans un break Ford et à cause de son arthrite, la pauvre Sarge ne pouvait pas grimper à l'arrière toute seule. Je devais donc la soulever avec précaution et l'allonger à l'intérieur, puis, une fois arrivé à la maison de Louise, ouvrir le hayon arrière, prendre la chienne dans mes bras et la poser dans l'allée comme une offrande de paix, je suppose, même si c'était plus proche, à mon sens, d'un geste propitiatoire. Ça se passait ainsi toutes les semaines. Malgré tous les efforts de Louise pour que Sarge demeure une résidente permanente de sa maison, la chienne réussissait toujours à se faufiler dehors et à arriver à ma porte juste après les filles, ou bien, de plus en plus souvent, elle venait en empruntant le sentier toute seule alors même que les filles étaient chez leur mère. Ce n'était donc pas Andrea, Kaitlyn et Sacha que la chienne suivait, c'était moi. J'ai commencé à comprendre que dans son esprit de chien, j'étais le chef de meute. Et comme j'avais déménagé dans un nouveau repère, elle avait déménagé aussi. Si elle ne me suivait pas, elle se retrouverait sans chef et sans repère adéquat. Il n'y avait rien que Louise et moi puissions faire pour montrer à Sarge à quel point elle se trompait. Bien entendu, elle ne se trompait pas. C'était un chien. Finalement, au bout d'un mois environ, Louise a rendu les armes, bien qu'elle n'ait jamais annoncé sa capitulation. Simplement est venu un moment où mon ex-épouse ne m'a plus téléphoné pour m'ordonner de livrer à sa porte notre chien de famille. Tout le monde, moi, Sarge, les filles, et même Louise me semble-t-il, en a été soulagé. Nous savions tous qu'à un certain niveau, une bataille majeure susceptible de provoquer de graves dégâts collatéraux venait d'être évitée de peu. Cependant, malgré mon soulagement, j'éprouvais une anxiété sourde, une sorte de bourdonnement en moi du fait d'avoir obtenu la garde exclusive de Sarge. Quand j'y repense, je m'aperçois d'une chose dont je n'étais pas alors conscient. Sarge, tant qu'elle n'appartenait exclusivement ni à moi ni à Louise, fonctionnait dans notre famille récemment démantelée comme le dernier chaînon nous reliant à l'époque précédant la séparation, celle d'avant la chute d'une époque d'innocence relative, où nous tous, et surtout les filles, croyions en la permanence de notre unité familiale, de notre meute. Si Sarge avait seulement accepté de suivre les filles, de monter et descendre péniblement derrière elles le long du sentier, si elle avait accepté la garde alternée, alors, pour nous tous, le fait que j'ai quitté ma femme aurait pu être vu comme un changement excentrique, impulsif, peut-être même temporaire, des lieux où nous dormions. Et les filles auraient pu vivre la chose en partie, comme une suite de soirées de camping effectuées à proximité avec leur père. Je ne me serais pas senti tout à fait aussi culpabilisé, et Louise n'aurait pas été aussi blessée et fâchée. Tout ce qui avait trait à l'abandon aurait été quelque peu atténué. Les enfants n'auraient pas été si traumatisés, leur vie telle qu'elle la voit aujourd'hui n'aurait pas été défigurée à jamais, et ni Louise ni moi n'aurions peut-être cherché aussi vite des conjoints de substitution. Ce qui revient à mettre un sacré poids sur les épaules de la chienne de la famille, je le sais. Nous perdons tous notre innocence bien assez tôt, c'est inévitable. Pour la plupart, nous n'y sommes cependant pas très près émotionnellement ou intellectuellement, avant la trentaine ou même plus tard, et donc, quand on la perd de trop bonne heure, pendant l'enfance ou l'adolescence, à cause d'un divorce ou de la mort soudaine et prématurée d'un parent, on peut rester fixé sur cette perte toute sa vie. Comme elle survient trop tôt, la perte ne paraît pas naturelle, mais violente et arbitraire. C'est une blessure permanente et gratuite qui laisse en nous une colère contre le monde. Alors, afin de donner une cible convenable à cette colère diffuse, on cherche un coupable. Personne, évidemment, n'a reproché à Sarge d'avoir rejeté la garde alternée et d'avoir du même coup brisé notre famille. En tout cas, pas consciemment. En réalité, à cette époque où la famille commençait à se défaire, aucun d'entre nous ne soupçonnait à quel point nous dépendions de Sarge pour continuer à ne pas voir la fragilité, l'impermanence même de notre famille. Aucun d'entre nous ne savait qu'elle nous aidait à différer l'éclatement de notre colère, à repousser notre besoin de coupable, à qui reprocher la séparation et le divorce, la destruction de l'unité familiale, la perte de notre innocence. Chaque fois que les filles descendaient du car scolaire pour entreprendre leur séjour de 3 ou 4 nuits chez moi, il était clair qu'elles se sentaient très réconfortées de revoir Sarge avec son grand sourire, ses yeux noirs et humides, rendus vitreux par la cataracte, sa queue tombante et sa démarche de chien arthrosique, bancale, mal fichu, quand elle les suivait péniblement depuis l'arrêt du bus jusqu'à la maison. Dès que les filles s'installaient dans le jardin ou dans la maison, du moment qu'elles n'étaient pas obligées de gravir les 3 escaliers menant au grenier pour être avec elles, Sarge s'allongeait à leur côté avec un air attentif, comme pour les protéger d'un danger dont Louise et moi n'aurions pas encore reconnu l'existence. Vicky n'était pas là très souvent, mais Sarge ne s'était pas attaché à elle avec autant d'intensité qu'aux 3 cadettes. Sarge ne s'occupait guère de Vicky. De son point de vue de chien, il me semble que Vicky était un membre tardif et secondaire de la meute, et bien que j'ai du mal à l'admettre, c'est aussi de cette façon que les 3 cadettes la considéraient, malgré mes grands efforts pour intégrer les 4 filles dans une seule unité familiale. Personne ne l'avouait, bien sûr, mais même alors, dans cette phase précoce, je voyais bien que j'échouais à construire une famille nucléaire recombinée. Vicky était un électron libre et, malheureusement, allait le rester. En général, quand les enfants étaient en classe ou chez leur mère, Sarge passait ses journées à dormir. Sa seule distraction en l'absence des filles consistait à se balader en voiture avec moi, car je l'emmenais partout où j'allais, même à mon bureau de l'université, où elle dormait sous ma table de travail pendant que j'allais donner mes cours. De l'aube au crépuscule, quand l'hiver était venu et que la neige tombait, si je me trouvais à la maison et que ma voiture restait dans l'allée, Sarge avait pour habitude, afin de ne pas rater une promenade éventuelle, de se glisser sous le véhicule et de s'y assoupir entre les roues arrière jusqu'à ce que je sorte. Quand je montais dans la voiture, je mettais le moteur en marche et si les filles étaient avec moi, je comptais les secondes à voix haute jusqu'au moment où, quand j'arrivais à 15 ou 20, Sarge surgissait à ma vitre. Je descendais alors, ouvrais le hayon arrière et la soulevais pour la déposer à l'intérieur. Si les filles n'étaient pas là, je comptais quand même, mais dans ma tête. Je ne suis jamais arrivé jusqu'à 30 avant que Sarge ne soit sorti pour attendre à la portière. J'ai maintenant oublié où nous devions aller, mais cette fois les 4 filles étaient toutes dans la voiture. Vicky à l'avant, Andrea, Kathleen et Sacha à l'arrière. Je me souviens que la sortie avait lieu pendant la journée, même si avec les cours de Vicky et les heures de classe des plus jeunes, il était inhabituel qu'elles se retrouvent toutes les 4 dans mon break durant la journée. C'était peut-être un samedi ou un dimanche. Peut-être allions-nous à la patinoire. En tout cas, c'était un après-midi lumineux, sans nuages et froid, ça je m'en souviens, et il n'y avait pas de neige au sol, ce qui veut sans doute dire qu'on avait traversé une période de grand gel après le dégel habituel de janvier. Ça devait être 5 ou 6 mois après le début de la séparation et du processus de divorce, lequel ne serait pas prononcé avant le mois d'août suivant. Les filles s'étaient engouffrées dans la voiture et elles étaient toutes les 4 d'humeur fofolle. Elles s'étaient mises à chanter pour accompagner les Bee Gees dans More Than a Woman, chanson disco populaire, et elles le faisaient en parfaite harmonie, remplaçant More Than a Woman par des paroles telles que « Femme chauve », chacune faisant tordre de rire les autres. Même Andrea, la plus petite, qui venait juste d'avoir 7 ans. Je ne peux pas dire que ça m'ait déconcentré. J'étais tout simplement heureux de voir mes filles faire les fofolles ensemble, et je leur lançais de grands sourires à toutes les 4, tandis qu'elles chantaient. Je voyais un visage rayonnant après l'autre, lorsque je me suis soudain aperçu que j'avais compté jusqu'à 60, et que je continuais. À ce stade, j'avais perdu le lien entre mon décompte et le fait d'aller mettre Sarge à l'arrière du break. Je me suis simplement arrêté de compter. J'ai passé la marche arrière et j'ai commencé à sortir de l'allée en reculant. Il y a eu un bruit sourd et un choc. Les filles ont cessé de chanter. Personne n'a dit le moindre mot. J'ai écrasé la pédale de frein, mis la voiture en position de parking et arrêté le moteur. J'ai posé mon front sur le bord du volant. Les quatre filles ont toutes commencé à se lamenter. C'était une lamentation atavique, funèbre, un peu plus féminine. Leurs voix montaient dans les aigus et s'amplifiaient, devenant presque des voix d'opéra, comme si cela faisait des années qu'elles attendaient ce moment pour pouvoir enfin exprimer de concert l'accumulation de toute une vie de souffrance et de douleur. Une chose horrible, presque impensable, venait de se produire. Leur père avait tué un membre permanent de la famille. Nous l'avions tous su, au moment même où nous avions entendu le bruit sourd et senti le choc. Mais les filles savaient quelque chose en plus. D'instinct, elles avaient compris ce qui reliait ce moment où Sarge gisait morte sous les roues de ma voiture à ma décision de quitter ma femme l'été précédent. Les raisons qui m'avaient poussé à prendre cette décision, la forme particulière qu'avaient revêtu mes douleurs et mes souffrances, les années d'humiliation que j'avais endurées, l'impression de m'être compromis en trop de domaines pour jamais pouvoir me respecter de nouveau si je ne quittais pas ma femme, tout cela n'avait aucune importance pour mes filles, pas même pour Vicky, car autant que les trois autres, elle avait besoin de l'unité familiale d'origine, où deux parents aimants habitent ensemble. Elle avait besoin que cette famille reste intacte, qu'elle continue à exister, alors qu'elle-même entrait dans sa vie d'adulte. Besoin que cette famille la tienne, la soutienne, elle comme ses sœurs, qu'elle les élève avec amour et plus que tout, les protège de l'adversité. Lorsque la lamentation s'est enfin calmée pour finalement cesser, lorsque j'en ai eu fini avec mes excuses si sincères et si répétées que les filles s'étaient mises à me consoler moi, au lieu de me laisser les consoler, en me disant que Sarge était sans doute morte avant que je la heurte avec le break, sinon elle serait sortie de dessous bien plus tôt, nous sommes descendus de voiture et nous avons enveloppé le corps de Sarge dans une vieille couverture. J'ai porté le cadavre jusqu'au bout du jardin, accompagné par les filles, qui, elles, portaient ses jouets préférés et son écuelle, et là, nous l'avons allongé avec ses objets sous un vieil érable sans feuilles. J'ai dit aux filles qu'elles pourraient toujours venir là, à cet érable, sur la tombe de la chienne, pour se souvenir de l'amour que Sarge avait pour elle et qu'elle-même avait pour Sarge. Pendant que j'allais dans le garage chercher une pelle et une pioche, les filles sont restées au-dessus du corps de Sarge, comme pour la protéger de toute profanation. Quand je suis revenu, Vicky m'a dit
« Tu sais, papa, le sol est gelé. »
Ah, ben c'est pour ça que j'ai pris la pioche. Mais la vérité, c'était que j'avais oublié que le sol était aussi dur que du dallage, et Vicky le savait. Elle le savait toute. À ce moment-là, j'étais pratiquement au bord des larmes. Je perdais la tête, effrayé par un raz-de-marée d'émotions qui montait dans ma poitrine et me submergeait totalement. Alors que les filles se calmaient et semblaient de plus en plus concentrées sur la tâche à accomplir, je me suis mis à dérailler. Jetant la pelle sous l'érable, j'ai commencé à lancer de violents coups de pioche contre le sol, à attaquer furieusement cette terre desséchée aussi dure que de la pierre. Le fer rebondissait sur la surface avec un bruit métallique qui résonnait dans l'air froid du matin. Et les filles, apeurées par mes halètements et mes grands gestes incontrôlés, se sont éloignées de moi à reculons, comme si elles voyaient leur père venger un crime dont elles n'avaient pas été témoins, exécuter un châtiment terriblement disproportionné à ce crime. Tout cela, je ne l'ai perçu qu'indistinctement. Mais ça m'a rendu encore plus furieux. Et je leur ai tourné le dos pour ne pas voir leur peur et leur désapprobation. J'ai lancé et relancé le fer contre le sol, de plus en plus fort, jusqu'à ce que je sois à bout de souffle, que les coups fassent vibrer de douleur les nerfs de mes mains. Alors, enfin, j'ai cessé d'attaquer la terre. Et quand j'ai eu la tête plus claire, je me suis souvenu des filles et me suis retourné lentement pour leur dire quelques mots, des paroles qui les incluraient à nouveau et dissoudraient leur peur lourde de chagrin. Je ne savais pas ce que j'allais dire, mais quelque chose me viendrait à l'esprit, comme toujours. Sauf que les filles étaient parties. J'ai regardé dans le jardin vers la maison, au-delà de la balançoire en train de rouiller, et je les ai vues toutes les quatre disparaître l'une après l'autre entre la maison et le garage, Vicky en tête, suivie de Sacha, qui tenait Andrea par la main, et puis Caitlin. Quelques secondes plus tard, elles ont réapparu à l'autre bout de la maison, en train de gravir le sentier menant chez mon ex-femme. À présent, Vicky tenait dans une main celle d'Andrea, et dans l'autre, celle de Caitlin. Sacha, l'aînée des trois filles de mon ex-femme, marchait devant. C'est là, plus ou moins, toute l'histoire. Sinon que lorsque les filles ont disparu de mon champ de vision, Scooter, mon chat noir, est arrivé d'un pas nonchalant, sortant des buissons le long du ruisseau qui délimitait le jardin, où il avait sans doute chassé des campagnols et des mésanges à tête brune. Il a traversé le jardin jusqu'à l'endroit où je me tenais, puis il est passé devant moi pour s'asseoir à côté du cadavre rigidifié de Sarge. La couverture entourant le corps de la chienne avait été soulevée par le vent froid qui ébouriffait son épaisse fourrure blanche. Ses yeux aveugles étaient secs et opaques, et sa langue grise pendait de sa bouche ouverte comme si on l'avait interrompue au milieu d'un bâillement. Elle ressemblait à du gibier, à un animal sauvage tué pour sa fourrure ou sa chair, pas à un membre permanent de la famille. J'ai emporté en voiture le corps de la chienne chez le vétérinaire, où elle a été incinérée, puis j'ai rapporté les cendres dans ma maison, et j'ai posé l'urne en céramique sur la tablette de la cheminée, en me disant qu'au printemps, quand le sol serait dégelé, les filles et moi enterrerions les cendres près de l'érable au bord du ruisseau. Mais cela ne s'est pas fait. Les filles ne voulaient plus parler de Sarge. Elles passaient moins de temps chez moi qu'avant sa mort. Vicky a emménagé chez son petit ami en ville. Le printemps venu, les autres filles n'ont plus dormi chez moi qu'un week-end sur deux. Et puis, plus du tout, quand l'été est arrivé et qu'elles sont parties en camp de vacances dans les montagnes blanches. Je ne les ai vues qu'une seule fois cet été-là, lorsque je suis monté au camp Abenaki pour le week-end des parents. J'ai vidé tout seul l'urne contenant les cendres de Sarge par un après-midi de mai. L'année suivante, une grande université du New Jersey m'a proposé un poste avec une bonne perspective de titularisation et, étant donné mon âge et ma carrière, je me suis senti tenu d'accepter. J'ai vendu ma petite maison au bas du sentier menant à la demeure de mon ex-femme. Dès lors, les filles m'ont rendu visite à moi et à leur vieux chasse-scooter quand elles ont pu, c'est-à-dire un week-end par mois pendant l'année scolaire et la semaine précédant le camp d'été.
Voilà, une bien triste histoire.
Histoire, mais avec cette citation de More Than a Woman, la fièvre du samedi soir, Mireille, en 1977.
Ah.
Voilà, ça ne me rajeunit pas.
Ça avait quand même des voix au perché. Hein.
Oui, oui. Mais c'était finalement, ça revient à la mode, le discours.
Bah, oui,
au niveau musical, c'est quand même très léché.
Alors, donc, dans ce recueil de 12 nouvelles, hein, donc le titre du recueil, c'était « Un membre permanent de la famille », comme le titre de la nouvelle. Alors, au fil de ces nouvelles, hein, y a des couples qui divorcent, des femmes noires qui sont traquées par des pitbulls, où une liste de courses devient un programme de vie, où l'on écoute battre sous la poitrine d'un...